comme ça. Première chose, bonjour à tout le monde. Et je vous dis le plaisir de me retrouver à Bruxelles. Et je voudrais remercier le professeur Benoît Friedman de ce qu'il a dit. Il m'a fait connaître un personnage. Si jamais vous le rencontrez, vous pensez à me présenter à lui. Parce que je ne le voyais pas du tout comme ça. Je voudrais remercier les organisateurs, Benoît Friedman, Guy Archer, le Centre Perelman, et puis tous les chercheurs du Centre Perelman de m'avoir fait venir. C'est extrêmement gentil, je suis très sensible. Je voudrais remercier de mes amis que je retrouve ici, et dont l'un a été le premier à me faire venir en Belgique il y a 40 ans. Et je voudrais les remercier. Je vous remercie de tout. Vous êtes pour moi des personnages extrêmement importants parce que vous représentez l'avenir. Et comme vous représentez l'avenir, c'est un petit peu ce que nous aurons pu éventuellement vous léguer, qui vous permettra de réfléchir pour ou contre, c'est pas le problème, mais de réfléchir pour le futur. Donc je me sens très heureux d'être ici. Alors donc, repenser le droit en temps de globalisation, vous n'allez rien apprendre aujourd'hui. Hein. Je vais essayer de vous présenter une conférence. Le style de la conférence est de présenter dans un temps déterminé un certain nombre de choses d'une manière qu'on pourrait espérer originale. Mais le fond des choses, vous les connaissez tous. Et regardez, je lisais la conclusion du manuel de philosophie du droit de Benoît Friedman et Guy Archer. La première ligne de la conclusion, c'est « La philosophie du droit se trouve confrontée aujourd'hui... » Excusez ma voix, je ne sais pas pourquoi, c'est l'avion d'hier. « La philosophie du droit se trouve confrontée aujourd'hui à des transformations de la société qui représentent pour elle des défis considérables. » Voilà, c'est ça. Vous êtes le futur, vous êtes devant des défis, et tout ce qu'on peut dire, c'est des choses qui sont censées pouvoir vous permettre de penser vous-même. Encore une fois, pour ou contre, et si possible contre, parce que vous avez l'âge d'être contre, et puis progressivement, vous prendrez peut-être de la sagesse et vous redeviendrez un peu moins contre, mais c'est la rencontre du pour et du contre qui vous permettra de sortir quelque chose d'intéressant. Bon, initialement, qu'est-ce que m'avait demandé le professeur Friedman? Il m'avait dit de venir dans le cadre du cours magistral, droit naturel et grand courant du droit contemporain. Demande initiale, la question de l'émergence d'un droit global, questionnements fondamentaux qui naissent d'une globalisation originairement économique et financière, mais c'est votre lettre, n'est-ce pas, mais qui a touché et continue à toucher gravement les fondements et le fonctionnement de nos systèmes juridiques. Et vous me demandiez de présenter les traits majeurs de l'impact de la globalisation sur les droits. Étant donné tout ce que vous avez écrit et que ce sont vos étudiants, je pense qu'ils savent absolument tout ça. Alors je vais essayer, moi, de vous faire quelque chose. D'abord, je suis très heureux. Je voudrais que cette conférence soit dédiée à Perelman. Perelman, c'est ses assistants qui ont été les premiers à me permettre de faire ma première conférence internationale en m'invitant au Centre Perelman. Repenser le droit en temps de globalisation. Repenser le droit, pourquoi ? En fonction de quelles données, sur quels fondements et comment ? Ça n'a rien d'original. Hein. Mais je crois que ce sont les questions fondamentales qu'on se pose, c'est ce que vous m'aviez demandé de faire. Pourquoi repenser le droit ? Parce que la globalisation a introduit un pluralisme dans les régulations. Et que le droit de facture moderne, mais ça le professeur Friedman l'a écrit aussi, c'est un droit qui ne permet pas de penser le pluralisme. Le droit, il est un. En dehors du droit, il n'y a pas de droit. Donc il y a un grand problème. Et comment gérer le pluralisme et la complexité qui s'ensuit, c'est la question, pourquoi repenser le droit? En fonction de quelles données? Il y a un nombre de données incroyables, mais je crois qu'on peut schématiser en disant, il y a un retour en force de la contractualisation. Le contrat était à la base du droit civil, du code civil, et puis le contrat l'a cédé progressivement à une certaine providence, et actuellement, avec le marché, on a le retour en force du contrat. On verra ça tout à l'heure. Place de l'État souverain, on dit que la globalisation, elle diminue la force de la souveraineté de l'État. Dans quelle mesure il faut en tenir compte? Il y a aussi la renaissance du citoyen, mais si vous prenez ce bouquin, La table des matières, j'ai vu qu'il y a exactement tout ça. Donc, je suis désolé. Bon, on va tâcher d'arranger autrement. Et puis, la renaissance du citoyen, c'est vrai que le citoyen est en train de se montrer de partout, il réapparaît. Et une apparition d'outils nouveaux qui sont des outils adéquats pour répondre aux problèmes que nous avons actuellement. Donc ces données-là, on va les prendre en compte pour essayer de repenser le droit. Sur quel fondement repenser le droit ? Eh bien, comme je vous le disais, le droit moderne, qui était un droit où il n'y a pas de pluralisme, qui a d'autres caractéristiques qu'on verra tout à l'heure, c'est un droit qui ne peut plus fonctionner. Donc, il faut arriver à quelque chose de différent, qui prenne en compte la complexité. Et dans cette complexité, il y a la volonté, avec le retour du citoyen, d'une participation. Participation citoyenne. Le mot participation est un mot absolument fondamental de nos jours. Et nous verrons comment on peut repenser le droit, la fabrication du droit, la production du droit. Quand j'étais étudiant, si j'avais prononcé le mot « production du droit » à un examen, j'aurais été collé immédiatement. Maintenant, production du droit, c'est tout à fait normal. Alors, comment repenser cette production du droit ? Il faudrait peut-être repenser le terme de gouvernement par rapport au terme de gouvernance, la gouvernance étant l'un des appareils, des outils adéquats pour traiter de la complexité. Et nous verrons pour terminer comment. Ce n'est pas le plan que je vais utiliser. Ça, ce sont les questions qu'on se pose. Pourquoi repenser le droit ? C'est une... En introduction, vous savez très bien que pour arriver à présenter quoi que ce soit, il faut le faire suivant un certain plan et que ce plan s'impose à partir d'une thèse qu'on fournit et que cette thèse, elle ne peut marcher qu'à partir d'hypothèses. Et ces hypothèses, il faut les baser sur quelque chose qui existe. Donc je commence dans l'introduction par vous présenter ce qui existe. Spécificité de la globalisation contemporaine. Bon, d'abord, tout ça vous le savez, C'est simplement pour nous rafraîchir l'esprit. Un changement dans les modèles de production. Vous savez aussi le développement des échanges transfrontaliers. Autrefois, on parlait d'entreprises multinationales, c'était déjà une révolution puisqu'une entreprise devait être nationale, et ces multinationales, elles sont devenues transnationales. Et il ne faut pas oublier que l'entreprise, il ne faut pas faire de l'angélisme. Les entreprises transnationales sont des entreprises qui essayent de développer la production, le commerce. Mais il y a la contrepartie qui est la criminalité transnationale, qui est aussi un type d'entreprise. Il y a des marchés de capitaux avec des flux d'investissement sans contrôle, sans frontières. Autrefois, les bourses, elles ouvraient à 1h de l'après-midi, suivant les fuseaux horaires. Elles ouvraient à 1h de l'après-midi, elles fermaient à 3h de l'après-midi. C'était merveilleux. Quand j'étais tout jeune, je travaillais à la poste en même temps. Et alors à Paris, j'allais à l'heure du repas, j'allais à la bourse pour voir ça. Maintenant, les transactions se font 24 heures sur 24. Elles se font par Internet. Il n'y a pas d'arrêt. C'est mis à la minute près. Hein. Le temps a complètement changé. Apparition de fonds souverains. Qui est-ce qui aurait parlé de fonds souverains sous Louis XIV ? Hein. Qui aurait parlé de fonds souverains il y a seulement 50 ou 60 ans ? Il y a actuellement des fonds souverains. Il faut en tenir compte. La multiplication des blocs régionaux économiques, la globalisation, vous le savez très bien, a fragilisé d'une certaine manière les États. Et les États se regroupent. Et des blocs économiques et régionaux, il y en a partout. L'Union européenne, elle a une vocation politique, mais il y a toute une série de blocs dans le monde qui n'ont pas cette vocation-là, mais qui sont des blocs économiques. Donc on parle des blocs régionaux. L'émergence d'acteurs supranationaux et transnationaux, ne serait-ce que les entreprises transnationales sont des acteurs. Par exemple, c'était très clair, j'avais un programme donc globalisation économique et droit du Mercosur. Vous savez que le Mercosur, c'est un bloc régional qui comprend le Brésil, l'Argentine, le Paraguay et l'Uruguay. Et il se trouve que chacun de ces pays a sa législation commerciale et industrielle. Eh bien, les entreprises transnationales, elles s'en fichent complètement. Elles dictent leurs règles. Alors, le résultat, c'est qu'il y a un grand problème de confrontation entre les droits. Qu'est-ce qu'on doit faire avec le droit national ou avec le droit d'un bloc régional? Ensuite, la suprématie des concepts néolibéraux dans les relations économiques, ça, alors on dit le marché, donc néolibéralisme. Du point de vue repenser le droit, c'est quand même important de savoir si c'est vrai, si c'est faux, dans quelle mesure, qu'est-ce que ça apporte de plus qu'autrefois, etc. Les ajustements structurels avec le développement des privatisations et la diminution du rôle de l'État, l'expression ajustement structurel est une expression qui nous vient beaucoup du consensus de Washington, on en parlera un tout petit peu tout à l'heure si on a le temps, hein, le consensus de Washington qui dit pour que dans les pays qui ont besoin d'emprunter au Fonds monétaire international, à la Banque mondiale, etc., il faut qu'ils suivent un certain nombre de règles. Et parmi ces règles, il faut qu'ils fassent chez eux des ajustements structurels. Il faut transformer leur manière d'approcher la politique, l'économie, etc. Ça peut être extrêmement grave. C'est une des spécificités de la globalisation contemporaine et nous, on doit en tenir compte pour repenser le droit. Puis la promotion mondiale de la démocratie et des droits de l'homme, on parle du néolibéralisme. Le néolibéralisme, c'est le marché, donc le marché, il écrase les droits de l'homme et pourtant, on n'a jamais autant parlé de droits de l'homme et de démocratie. Il faut faire la démocratie et les droits de l'homme partout. Alors, je vous disais tout à l'heure, pas d'angélisme, jamais d'angélisme. Il est vrai qu'en développant la démocratie, en disant « vous devez être des États démocratiques », donc vous devez ouvrir vos frontières. Ça facilite aussi le marché. Rien n'est blanc, rien n'est noir. Mais il faut l'avoir en tête pour bien penser ou repenser le droit. Et puis, récursivité permanente entre le global et le local, c'est une des spécificités de la globalisation contemporaine. Il se trouve que je crois, jusqu'à présent personne ne m'a contredit sur ce point-là, qu'on peut spécifier la globalisation contemporaine par cette existence de récursivité permanente entre le global et le local. Si vous n'avez pas ces récursivités, à ce moment-là, vous avez de l'impérialisme. Si vous avez ces récursivités, vous avez de la globalisation. Alors, je vous pose la question, par exemple, le McDonald's. McDonald's, c'est de la globalisation ou de l'impérialisme? Vous allez me dire, c'est de l'impérialisme. Ben, je vous dis non. Parce qu'à Bruxelles, vous avez envie d'avoir du McDonald's qui a un certain goût, qui n'est pas le même goût que les gens ont envie d'avoir à Tokyo, et qui n'est pas le même goût que les gens ont envie d'avoir à Rio de Janeiro. Donc le local marche, et il marche très bien. Et si on sait le faire marcher, alors on évite l'impérialisme du McDonald's et c'est de la globalisation. Voilà, c'est un critère. Alors, à partir de ce que nous venons de dire, les citoyens sont incommodés. Hein ? Le monde change, le monde est devenu complexe, il y a un retour du marché hostile à la protection dans les pays qui connaissent la protection, il y a l'impression d'une perte d'identité locale. Alors vous êtes, je crois, ici en Belgique en train de parler d'identité, mais en France, vous savez qu'actuellement, en ce moment même, c'est le grand débat sur l'identité nationale. Qu'est-ce que l'identité nationale ? On en traite dans les préfectures, vous vous rendez compte. Ensuite, la présence d'acteurs hors représentativité, la démocratie représentative, c'était la démocratie traditionnelle. Or, actuellement, hors représentativité, il y a des acteurs qui veulent s'imposer de plus en plus. Je vais vous dire un mot et vous comprendrez tout de suite, les ONG. Les organisations non gouvernementales ne sont pas représentatives. Si elles sont représentatives, alors les gens sont élus. Ils sont députés, ils sont sénateurs, ils sont maires, ils sont... Mais il y a toute une partie de gens qui agissent et qui ne sont pas des représentants démocratiques. Ensuite, la contractualisation systématique des échanges, on en a parlé, le passage de la réglementation à des régulations. Alors voilà encore un mot, si à l'examen en droit, il y a 40 ans, j'avais prononcé le mot régulation, je me serais fait jeter immédiatement. Je me suis fait beaucoup jeter, je veux dire. Bon, c'est pas le problème. Le mot régulation est devenu un mot tout à fait normal, alors qu'il était réservé aux économistes autrefois. Alors on passe d'une réglementation à la régulation. Où est le droit là-dedans? Est-ce que le droit reste dans la réglementation et qu'est-ce qu'on fait des régulations? ou est-ce que le droit va toucher des régulations, va prendre en compte des régulations, mais est-ce que c'est de la réglementation, est-ce que ça n'en est pas? Il faut repenser tout ça. Et puis la complexité dans les relations et les échanges, il n'y a plus de simplicité, donc c'est important. Les citoyens des pays sans providence sont désarçonnés. Au Brésil, quand je débarque à Rio de Janeiro, très souvent j'entame une conversation avec le taxi entre l'aéroport et j'apprends en arrivant en ville qu'il est docteur en droit. On ne compte plus le nombre de chauffeurs de taxi qui ont un diplôme universitaire important. Et ça, c'est depuis les années où la globalisation s'est vraiment imposée. Par exemple, les États-Unis ont envoyé carrément des gens de chez eux pour remplacer les gens locaux à des postes importants dans les entreprises. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ce sont des gens qui n'ont pas de protection, donc ils se manient, et être chauffeur de taxi, bon, on achète un taxi, on prend une licence et puis on fait quelque chose. Il faut y penser à ça. Et courir à travers le monde, c'est fondamental pour ça, parce qu'on prend conscience de choses qui n'existent pas chez nous. Car chez nous, les citoyens des pays sous providence, eh bien, ils sont mécontents, ils sont revendicatifs. Aujourd'hui, je crois, il y a une grève des trains. Alors, je ne vais pas dire, je ne vais pas me permettre, d'abord, n'étant pas belge, de dire si c'est légitime ou si ce n'est pas légitime, mais on comprend que les gens sont mécontents. Voilà. Alors, est-ce que ça n'entraîne pas aussi de repenser les syndicats? Repenser les syndicats, c'est-à-dire repenser aussi l'État. Repenser l'État, c'est repenser le droit. On tourne toujours dans les mêmes sphères. On est passé d'un monde de la providence à un monde où le jeu se met à devoir être pris en compte. Le marché, c'est beaucoup le jeu, ça n'est plus de la providence. Quand on fait du contrat, il faut avoir ce sentiment qu'on fait du contrat, qu'est-ce qui va se passer, etc. Avec la providence, on s'assoit dans une chaise, si on est malade, on est payé par l'État et on s'en fout. Ce que j'ai appelé, moi, la rationalité du droit devient en partie une rationalité ludique. Alors les spécialistes maintenant, on a vu les citoyens, les spécialistes, c'est là les erreurs, je fais attention, les spécialistes sont désorientés. La globalisation développe un pluralisme des régulations. Il y a d'abord une coexistence d'une pluralité d'ordre juridique ou judiciaire distinct qui ne peuvent échapper à l'établissement entre eux de rapports de droit. Ça n'existait pas. Il y avait des rapports entre les États et les droits des États. Et c'était toujours ça qui s'est passé. À l'intérieur d'un État, maintenant, il y a de la complexité avec coexistence de pluralité d'ordre juridique ou judiciaire. Et puis l'existence simultanée au sein d'un même ordre juridique de règles de droit qui proviennent de sources diverses et s'appliquent à des situations identiques. Les juristes sont désarçonnés devant la complexité des sources du droit, les contradictions entre le droit national régional et les régulations du marché. Les juristes d'affaires et les fiscalistes s'en sortent en conseillant de traiter éventuellement hors du droit. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les avocats se divisent maintenant en deux. Il y a des avocats qui ne mettent plus jamais les pieds au palais. Tout se passe dans leur cabinet. On essaye de prévoir ce qui va se passer, les entreprises viennent, on fait de la négociation, on ne va plus au palais. Et il y a quelques avocats qui restent pour aller pour les grandes affaires ou des toutes petites affaires au palais. Mais il y a vraiment un changement complet. Et les fiscalistes, alors ça je le vois très bien sur les continents qui ne sont pas aussi protégés que le nôtre, les fiscalistes se font des fortunes en donnant des conseils à des entreprises étrangères qui veulent venir s'installer d'une manière ou d'une autre, échapper au fisc ou faire des choses comme ça. Et ils profitent de la complexité du droit tel qu'elle est devenue avec la globalisation. Magistrats et gouvernants, eh bien, les magistrats et gouvernants, ils sont toujours dans le cadre de l'État et ils ne peuvent plus assurer leurs tâches de manière satisfaisante avec les outils dont ils disposaient traditionnellement. Alors, pluralité des sources, est-ce que ça veut dire qu'on va vers un droit global? Alors, attention, la régulation des relations juridiques globalisées dans un certain nombre des matières qu'on va voir maintenant échappe largement aux États nationaux. D'abord, pluralité des sources au-dessus de l'État. Il y a des sources qui viennent des ententes et blocs régionaux, des instances internationales et globales, étant entendu que les instances régionales sont aussi soumises à des instances internationales et globales. Il y a toute la question de l'ingérence humanitaire qui dépasse les États et le droit des États. et la question de la sécurité globale. Par-dessous aussi, il y a des sources de droit qui apparaissent, qui viennent des localisations, des déconcentrations, des décentralisations. Ce sont trois mots. Alors, chaque mot a son poids et son sens. L'un n'est pas l'autre. Mais il se trouve que ces trois formes de dé quelque chose par rapport au pouvoir de l'État sont importantes, délocalisation, déconcentration, décentralisation. Il y a le développement de ce qu'on appelle en France les agences indépendantes de régulation, qui partout ailleurs s'appellent des agences de régulation indépendantes. Non, en France ça s'appelle même agence administrative, ne s'appelle pas agence, ça s'appelle AAI, Autorité administrative indépendante. Autorité administrative indépendante. Comment peuvent-elles être à la fois des autorités indépendantes et administratives? Alors partout, on appelle ça plutôt des agences de régulation indépendantes. Ça nous vient des États-Unis. Vous savez très bien qu'avec la globalisation, le système de conception de common law s'est beaucoup développé dans le monde, et les agences de régulation sont un exemple. Ça aide beaucoup les États, mais les États sont dans une situation difficile parce que à la fois ils essayent de donner la liberté, l'indépendance à ces agences, et puis d'un autre côté ils ne veulent pas perdre leur autorité. Est-ce que ce que les agences font c'est du droit, ou est-ce que ce droit doit être soumis à de la reconnaissance? Il faut repenser le droit complètement. Et puis le secteur privé, les chartes de conduite qu'on fait, les codes de conduite qu'on fait dans les entreprises, etc. À travers l'État, à travers les frontières de l'État, il y a du droit qui se fait, non seulement au-dessus, non seulement en dessous, mais à travers les frontières de l'État. C'est tout ce qui est transnational. Alors, ce qui est transnational, Benoît Friedman en connaît un bout, vous devez savoir. Actuellement, bon, il y a même 10 ans, on n'aurait pratiquement pas parlé de transnational. Je crois qu'un des premiers à avoir vraiment introduit le mot dans notre milieu, c'était Volkmar Gesner. Et alors, il parlait de transfrontiérisation à l'époque. Maintenant, on parle carrément de transnational. Il y a du commerce transnational, des entreprises transnationales. L'Internet. Où est le droit là-dedans? Où est-ce qu'on peut l'arrêter? Comment est-ce qu'on peut faire? Vous avez vu, même en Chine et en Iran, on arrive à passer des images prises sur des appareils de photo et qui vont par Internet. Les marchés financiers, les fonds souverains, on l'a dit, le contrôle de la criminalité transnationale, tout ça, ça passe à travers l'État, et l'État n'a pas vraiment prise là-dessus. Et puis en marge, à droite, à gauche, des frontières du droit de l'État, il y a tous les modes alternatifs de solution des conflits. Vous savez que les modes alternatifs de solution des conflits passent par la négociation. Ce sont des choses qui se développent actuellement considérablement. C'est du droit qui se fait le long du droit de l'État. Et puis au-delà de l'État, alors l'État, qu'est-ce qu'il a à faire là-dedans? On est très national, alors que des questions comme la démocratie, les droits de l'homme, la question des minorités, de l'exclusion, la question du patrimoine commun de l'humanité, ce sont des choses qui sont beyond. Voilà. Donc la régulation des relations juridiques globalisées dans un certain nombre de ces matières échappe largement aux États nationaux. Nous avions affaire à une raison ludique du droit. Le droit, c'est aussi une rationalité plurielle et segmentée. Alors, mes hypothèses, je suis très en retard, là, hein? Très en retard. Mes hypothèses, je vais aller très très vite pour la suite, parce que mes hypothèses sont les suivantes. On ne peut repenser le droit aujourd'hui qu'en fonction de la complexité des échanges contemporains, due notamment à la multiplicité des sources de régulation, ce qui conduit à une redéfinition, une redistribution des rôles entre l'État et le citoyen. Le citoyen, historiquement, était un sujet de droit, il devient un acteur. Un acteur, un promoteur du droit. Et il peut le faire grâce à un outil qui est la gouvernance. Et si le citoyen assume ce rôle, parce que tout le monde n'est pas prêt à assumer le rôle, je vois très bien dans mon village, quand on dit le soir on va se réunir pour discuter sur la question des pays, c'était une question qui se faisait en France, quelle est votre citoyenneté et tout. À partir de 7h du soir, les volets commencent à se fermer. À 8h, tout le monde est devant la télé et vous réunissez personne dans la salle de la mairie. Il n'y a rien à faire. Donc, il faut avoir un sentiment de vouloir participer. Alors, ce vouloir participer, on le trouve, par exemple, dans les favelas au Brésil. Parce que les gens, ils n'ont rien. Parce que les gens, ils ont une vie communautaire, parce qu'ils ont l'habitude de se... Je suis enregistré, je ne peux pas dire. Remuer le popotin, on va dire. Hein? Et donc, quand il y a une question qui intéresse la communauté, alors là oui, ils y sont. C'est ce qui fait le succès de ce qu'on appelle les budgets participatifs. Vous avez entendu parler probablement du budget participatif de Porto-Alegre. Il y a une partie de... c'est un gouvernement qui est traditionnellement du Parti des travailleurs. Et alors, il y a une partie du budget qui est laissée à la disposition des citoyens. Eh bien, ils se réunissent dans les quartiers pauvres. Et ils disent, oui, avec cet argent-là, on va mettre l'électricité dans les rues, parce qu'il n'y est pas. Eh bien, on va donner un repas de plus à nos enfants à l'école. Et voilà. Donc, nous, toute proportion gardée, qu'est-ce qu'on est prêt à faire et qu'est-ce que les citoyens peuvent faire? Alors, d'où ma thèse. Les transformations sociales, économiques et financières opérées depuis le milieu du XXe siècle, notamment à partir du grand développement de la globalisation contemporaine, oblige à repenser nos droits, qui sont fondés, c'est là ma thèse, sur une épistémologie positiviste et une philosophie entre guillemets moderne. Les philosophes parlent d'époque moderne pour le gros XVIIe, XVIIIe siècle. Et donc, c'est une épistémologie, une philosophie juridique qui ne peut plus marcher. Et nous avons les instruments intellectuels et techniques pour le faire. Alors, j'avais deux parties à vous présenter. La première était en fonction de quelles données repenser le droit, en fonction des forces en présence et des opportunités, le marché, on a parlé du retour de la contractualisation, l'État, quelles sont les dimensions de sa souveraineté, le citoyen, les sujets qui ne veulent plus être des citoyens, renaissance du citoyen, qui ne veulent plus être des sujets, qui veulent être des citoyens, et puis l'état des appareils conceptuels adéquats avec l'apparition d'outils qui peuvent être adéquats. Retour de la contractualisation, vous connaissez tout ça. Déplacement de la production juridique vers des pouvoirs privés, recul de l'état-providence, la convention contrat réinvestit des lieux d'où fut exclue la volonté privée, développement de la négociation, épanouissement d'une régulation conventionnelle transfrontalière, diminution de l'exercice du pouvoir normatif unilatéral de l'État, développement d'une gouvernance globale, on parle beaucoup de la gouvernance globale, on y reviendra, le retour au contractualisme, il est clair chez des auteurs comme John Rawls, Ronald, Harry Coase, la liberté des échanges permet le meilleur usage des ressources. Je vous précise entre nous que je suis là pour une heure et demie, deux heures avec vous, mais que je considère que pour ceux que ça intéresse, c'est un début de contact, vous aurez mon adresse email ensuite. Je suis un très bon correspondant et je suis à la disposition, comme toujours, de ceux qui ont envie de discuter avec moi. Alors, repensez la place, parce que là, je vous dis des choses qui sont... trop courte, avant quelques moments. Repenser la place de l'État d'abord. Alors l'État, on dit toujours, la globalisation diminue la souveraineté de l'État. Eh bien, pas du tout. Il y a beaucoup d'endroits où l'État est complètement renforcé dans son rôle de producteur de droit. D'abord, il est un gendarme, il est aussi un rempart, et il est aussi un stratège, il est devenu un stratège. Il est un gendarme. C'est lui qui assure, par exemple, la mise en œuvre de règles qui viennent d'ailleurs, et en particulier supranationales. Il est la pierre angulaire éthique de toute société libre, et tant qu'on n'aura pas trouvé mieux que l'État démocratique, il faut le préserver. L'État rempart face aux crises globales. Vous avez bien vu qu'il y a un certain nombre d'États qui ont plongé dans la crise il n'y a pas longtemps, la crise financière. Il y en a d'autres qui s'en sortent un tout petit peu mieux, et l'Europe s'en sort pas trop mal, hein? Si tant est qu'elle s'en sorte. Mais, et puis, l'État stratège, les présidents de la République sont devenus des, comment est-ce qu'on appelle ça, des vendeurs commerciaux. Ils vont faire la publicité pour les avions, les rafales qu'ils n'arrivent pas à vendre, pour, etc. Donc, l'État a un rôle tout à fait renforcé, il continue à produire. Il est vrai qu'il est aussi décentré. Rien n'est simple, tout est complexe. Et le droit étatique, d'une part, il est relayé. Relayé par quoi? Par tout ce qu'on a vu tout à l'heure, above, below, through, alongside, beyond. Hein, les blocs régionaux, pouvoir privé économique, corporation, code de conduite privée, droit négocié. Au-delà de relayer, plus grave, il est beaucoup suppléé par les politiques publiques. Le rapport entre le droit et les politiques publiques est important à établir. Nous sommes des juristes. Pourquoi on fait cette différence si importante entre juristes, entre droit et sciences po, entre juristes et sciences politiques? Il y a beaucoup de rapprochements à faire et il faut voir dans quelle mesure les politiques publiques n'ont pas pris largement la place du droit. On continue à légiférer. Comme disait Carbonnier, les trois quarts des lois ne sont pas appliquées. C'est mal pour le droit. Les politiques publiques, elles sont beaucoup plus souples. On fait une politique publique. On essaye de l'appliquer. Avec le résultat, on fait une analyse. On peut les réorienter. Hein? Et dans la chaire UNESCO que je dirige actuellement, c'est un travail sur les politiques publiques, justement, alors que ce sont des juristes qui sont là-dedans. On essaye, dans chaque pays, il y a 6 pays différents, dans chaque pays, on prend un problème grave. Alors, je vous donne un exemple. La Colombie, par exemple, c'est les populations déplacées. Rio de Janeiro, c'est les problèmes de criminalité dans les favelas et dans la rue, etc. En Italie, alors ça, c'est génial. C'est le travail au noir des enfants. Bon, on cherche les politiques publiques qui devraient interdire ça. Et on dit pourquoi elles ne fonctionnent pas. À partir du moment où elles ne fonctionnent pas, on va sur le terrain. On parle avec les associations, les ONG. On parle aussi avec les représentants, les organisations gouvernementales qui travaillent sur ces questions-là. À partir de là, nouvelle phase. On réoriente la politique publique, on écrit, et ça il faut être juriste pour faire ça, on réécrit les politiques publiques et on les présente au gouvernement. Et ce qui intéresse l'UNESCO, c'est de savoir si ça a été reçu ou si ça n'a pas été reçu. Alors, je vous rassure, pour l'instant c'est reçu quand parmi nos chercheurs, on a des gens qui sont proches des gens qui sont dans le gouvernement, exemple Madrid, et puis c'est pas reçu lorsqu'on n'a pas de gens qui sont pas proches du gouvernement. Alors c'est clair. Donc l'État est très fort. L'État, il a ses propres observatoires, il désigne ses propres chercheurs. Mais quand vous faites une recherche qui n'a pas été commanditée par l'État lui-même, alors elle va dans un tiroir. Je ne suis pas très optimiste, mais bon. Et puis le droit étatique, donc il est suppléé dans les politiques publiques, ce qu'on appelle la deep integration, hein, au niveau des blocs régionaux, l'environnement, la sécurité globale. Et alors, grave, le droit étatique est aussi supplanté, FMI, Banque mondiale, G7, l'ex mercatoria, marché financier spontané, de gré à gré, etc. Et puis, il y a le retour du citoyen. Alors, il existe aujourd'hui une véritable volonté de participation en dehors de la représentation démocratique. Le sujet de droit veut être un promoteur de régulation. Et il y a 3 mots fondamentaux sur lesquels je n'ai pas le temps de m'étendre, mais on peut retravailler, mais vous connaissez ces questions. Grassroots, qui a été utilisé par les Américains très tôt et par nos collègues aux États-Unis dans la Law and Society Association. Si vous voulez continuer dans ces domaines-là, d'ailleurs, inscrivez-vous dès maintenant à la Law and Society Association. Il y a des tarifs tout à fait spéciaux pour les étudiants et vous apprendrez énormément. Il y a ce qu'on appelle la société civile. Alors là, c'est énorme, de quoi est formée la société civile. Et puis la cosmopolitan démocratie qui est définie, en général, regardez les livres de Held, H-E-L-D, cosmopolitan démocratie qui est définie comme le travail qui est fait par les participants de ces ONG globales qui ne travaillent pas sur un territoire national mais de façon transnationale et qui créent véritablement une démocratie cosmopolite. Alors, sur quel fondement repenser le droit ? Je vais vite comme tout, je ne vois pas comment faire autrement. Sur quel fondement repenser le droit ? Ça, c'est fondamental, c'est exactement dans le cadre du cours que vous suivez actuellement. Comment gérer, c'est la question, comment gérer les effets de la globalisation avec des droits nationaux et un droit international ? International, c'est entre les nations. Hein ? Traditionnel, qui repose sur des fondements philosophiques et épistémologiques qui ne s'y trompent pas. Une situation qui renvoie à l'état de la pensée juridique. Les fondements théoriques de la pensée juridique moderne ont un certain nombre de traits spécifiques. Là, je voudrais du temps, j'en ai pas. Mais je vais vous donner un exemple. L'abstraction. L'abstraction, ce n'est pas une évidence. Vous parlez de concepts. Vous êtes en droit, vous êtes en philosophie et vous travaillez sur des concepts. Le droit, historiquement, c'était un droit pratique. Alors, je vous donne des grandes phases. Hein. Première phase, le droit, c'est du familia pecuniaco. C'est la famille élargie et le troupeau. Et on gère ça. Et ce sont des familia pecuniaco qui se rencontrent. Je ne veux pas dire du tout qu'à Rome, il n'y ait pas eu des auteurs qui, comme Gaius par exemple, aient pu élaborer quelques concepts, mais ce n'était pas vraiment des concepts, c'était quelques définitions. Non, c'est un droit vraiment pratique. Et puis, il se trouve que l'Empire romain d'Occident tombe, et qu'est-ce qui reste en place depuis que l'Empire avait reconnu la religion catholique comme religion officielle de l'État? 212 édits de Caracalla, il se trouve que à côté de chaque représentant de l'Empire romain d'Occident, il y avait un évêque. Lorsque les représentants de l'Empire romain d'Occident tombent, qu'est-ce qui reste? Les évêques. Alors, les évêques font du droit sur place. Et puis, de temps en temps, ils se réunissent à Rome, concile. Et alors, avec le pape, ils élaborent quelque chose de commun pour la chrétienté, qui va devenir la chrétienté médiévale. Mais réfléchissez un peu. Combien de jours, combien de semaines, combien de mois il faut pour aller de Rome à Édimbourg, de Rome à Hambourg, de Rome à Madrid? Et ils vont dans des directions opposées. Donc, dans leur carrosse, ils sont entourés de clercs qui savent écrire, et ils leur disent ce qui se rappelle du concile. Et quand ils arrivent à Hambourg, à Édimbourg ou à Madrid, ils font des corps de droit pour les gens qui sont sous leur autorité. Et ces corps de droit, ils vont être différents, parce qu'en route, on a parlé différemment. Pas radicalement différent, mais relativement différent. Et il se trouve que vers l'an 1000, il y a en gros 500-600 collections canoniques à travers la chrétienté médiévale, c'est-à-dire très peu, c'est-à-dire l'Europe, et qui sont différentes les unes des autres. Et le pape, à ce moment-là, est assez fort. Et on a réouvert, depuis peu, une université en Italie, sur la mer, comment ça s'appelle déjà? Bologne, merci. L'université de Bologne. Et à Bologne, il y a des juristes canonistes. À l'époque, le droit, c'est canonique. Et on demande à un monastère qui était là et qui avait des professeurs de prendre toutes ces collections et d'essayer de les unifier. Et l'intelligence de celui qui a laissé son nom, qui s'appelle Gratien, Gratianus, qui a laissé un decretum Gratiani, est-ce que c'était un homme, est-ce que c'était une équipe? Tant pis, hein. Bon, c'est passionnant ce truc-là. Il a une idée formidable. Il se dit, j'arriverai jamais à réunir toutes ces collections. Et alors on lui parle par exemple de deux choses majeures qui sont le mariage. On peut le dissoudre, on ne peut pas le dissoudre. La guerre, on peut la faire, on ne peut pas la faire. Je prends deux exemples comme ça. Et alors il y a une idée, mais alors vraiment c'est le trait de génie. Il va distinguer matrimonium, c'est une chose. Il peut être ratum, on est d'accord. Et consommatum, on l'a consommé. Et bien voilà le premier concept qui apparaît. Matrimonium, ratum et consommatum. S'il est simplement ratum, on peut obtenir une séparation. S'il a été consommatum, on ne peut plus rien faire. La guerre, Bush devrait être content. C'est la guerre juste. Est-ce qu'il y a de la guerre juste? Voilà. Et alors, il est en train de réfléchir sur le concept. Le concept de guerre. Alors, guerre, c'est opposé, etc. Et c'est lui qui a créé, en ajoutant le mot guerre et le mot juste, la justice étant basée sur les paroles de l'Évangile, c'est lui qui a créé le concept de guerre juste. Alors, avec Bush, plus rien à voir, hein, mais les déformations au cours des siècles, c'est commun. Voilà le début de l'abstraction. On développe des concepts, et à partir de ces concepts, on va admettre que l'être humain, on dit l'homme à l'époque, l'être humain est au centre de tout, donc il va être au centre du droit. C'est le subjectivisme qui naît
on va se mettre à parler de sujets de droit. Jamais en droit romain, vous n'entendez parler de sujets de droit. On va se mettre à parler de sujets de droit qui devient le centre du monde. Et actuellement, notre grand problème, c'est que le sujet, il est décentré. Hein? Ce qui serait plutôt le centre actuellement, ce serait le marché. Alors c'est tout ça qu'il faut voir. À l'époque, subjectivisme. Puisque le sujet est le même partout, qui marche sur les pieds ou qui marche de l'autre côté de la Terre, on vient de dire qu'elle était ronde, qui marche sur la tête, ça n'a pas d'importance. Universalisme des concepts. À partir de l'universalisme des concepts, unité de la raison. Unité de la raison. La rationalité juridique va être unique. Il ne peut pas y avoir de pluralisme. Axiomatisation, à partir d'axiomes bien définis, on peut développer des systèmes de droit qui sont des systèmes basés sur l'unité de la raison, donc simples. Puisqu'ils sont simples et basés sur l'unité de la raison, ils sont sur sécurité juridique. Où elle est actuellement, la sécurité juridique? Alors que nous avons été formés dans la sécurité juridique, et je suis sûr que vos professeurs vous enseignent encore la sécurité juridique. Et puis, la distinction de la société civile et de l'État au travers de la représentation. Alors, voilà. Savoir que c'est très occidental comme concept, savoir que le critère du droit moderne, c'est-à-dire le droit... C'est moi qui faisais... Le critère du droit tel qu'il naît en 1040 avec le Decretum Gratiani et qui va durer en gros jusqu'en 1950, qui est encore celui qui est officiel mais qui est vu, c'est le Jus est facultas. À partir du jour où il y a un auteur qui a dit le droit c'est la faculté de, aujourd'hui les gens disent j'ai le droit de. Et on a tous les droits, puisqu'on est sujet de droit, puisqu'on est au centre du monde, puisqu'on est le centre du droit. Alors ça a donné l'Europe comme berceau de la pensée des relations juridiques internationales, ça a donné l'Europe comme berceau du subjectivisme et l'Europe comme berceau des codes modernes, ce sont les produits de la modernité. Tout ça est fondé sur une épistémologie positiviste. Et alors je ne vais pas vous lire la diapo qui est là. L'épistémologie positiviste, vous n'avez qu'à penser la création du monde. La création du monde... Appelez comme vous voulez, Dieu, main invisible, grand... Bon, peu importe. Il y a quelqu'un qui a programmé le monde. Et tout à fait au bout, de l'autre côté, il y a, appelez comme vous voulez, le jugement dernier, la fin du monde, etc. Et au milieu, nous ne sommes que des petits éléments qui sommes programmés. On n'invente rien. Et justement, ce qui est fondamental, c'est que, je vous le dis clairement aujourd'hui, c'est fini. On n'est plus des petits éléments programmés. On construit notre chemin maintenant. Et vous construisez votre chemin. Et pour vous, ça sera beaucoup plus difficile parce que vous ne pouvez pas vous dire « je suis programmé, je laisse faire, je fais le mieux possible ». Non, il va falloir tout créer de vous-même. Donc tout est programmé, le nombre des sources de droit est limité, les sources sont hiérarchisées, elles ne peuvent pas se contredire. La connaissance du droit se fait pas à pas, on ne le connaît pas trop aujourd'hui, demain on le connaîtra mieux, Carbonnier est passé par là, c'est formidable, aujourd'hui il y en a un autre, et etc. Et on peut, de cette manière-là, parler de progrès en droit. Et le progrès final, ce sera le jugement dernier, ce sera la fin du monde. Sur cette base épistémologique repose la décision traditionnelle qui est « one best way ». Dans toute situation, il suffit de connaître toutes les contraintes qui pèsent aux divers stades du traitement, d'avoir le temps nécessaire pour effectuer les calculs susceptibles, et d'optimiser le résultat pour savoir quelle est la meilleure décision de comportement possible. C'est Charlie Chaplin, les temps modernes, le patron qui est au premier étage. Tout le monde travaille en bas, Charlie Chaplin il est sur son truc, et lui il est comme ça, il tourne, il a son téléphone, il parle, il donne les ordres, et c'est tout. Ça, c'est le one best way. Alors le one best way, il se montre comme ça. Il y a une séparation absolue, on a dit qu'on pouvait... Une séparation absolue entre ce qui est toute la préparation, tout le terrain, toute la base sociologique, toute la base psychologique, toute la base économique, toute la base politique. Et tout ça, on en tient compte uniquement si les spécialistes disent aux décideurs « Oui, créer cette décision de norme, c'est tout du top-down. » De toute façon, j'ai donné cet ensemble de diapos pour être sur Internet, donc vous pourrez y revenir. Et si vous n'êtes pas d'accord avec moi, je serai ravi, vous m'écrirez et vous me le direz. Apparition d'outils douanes, le style de précision de décision One Best Way ne marche plus actuellement. Et il y a deux outils nouveaux qui sont apparus. La gouvernance, ce n'est pas une conférence, c'est un cours qu'il faudrait faire, ou une série de cours sur la gouvernance. Et puis la modélisation de la décision complexe. Alors, la gouvernance en deux mots, pour bien comprendre. Lorsque, c'est les Américains qui ont inventé ça, hein. Lorsque les gens partaient dans le Far West, ils n'avaient pas l'État derrière eux. Il y avait des gens qui les attaquaient, il y avait les Indiens qui trouvaient que leur territoire était envahi, il y avait des gens qui tombaient malades, il fallait s'en occuper, il y avait des morts, il fallait les ensevelir, il fallait s'organiser. Et encore une fois, il n'y avait pas l'État derrière, et il n'y avait pas tout le temps l'armée. Alors ils se sont organisés eux-mêmes. Ils se sont organisés eux-mêmes, c'est la base de la gouvernance démocratique. Bon. Alors je ne fais pas un cours sur la gouvernance, je passe. Mais je dois vous dire quand même que gouverner, c'est exercer le pouvoir lié à la souveraineté, on dit les actes du gouvernement. Ne confondez pas gouvernance et gouvernabilité comme on l'a fait énormément dans les années 90, quand le mot gouvernance n'était pas encore employé par nos premiers ministres qui n'y connaissaient rien mais qui en trouvaient le mot intéressant. Et on parlait, soit, par exemple, gouvernance en espagnol a d'abord été traduit par gobernabilidad. Non, c'est pas ça. La gouvernabilité, c'est le degré d'effectivité des actes de gouvernement. Sur la gouvernabilité, vous lisez les travaux de Michel Foucault qui sont fondamentaux. Et la gouvernance recouvre au sens large un certain nombre de critères qui sont importants. Coordination d'acteurs, de groupes sociaux, d'institutions dans l'action publique politique. Une gestion collective, ce sont les mots importants, gestion collective. Des buts propres, discutés et définis collectivement. Articulation de logique d'action, on en arrête avec le conflit. Lorsque le droit était simple, il était le droit et tout ce qui n'était pas était en dehors, donc c'était du conflit, donc c'était de la justice. Non, on articule des logiques et on cherche à trouver des logiques. Vous m'excusez, je vais dépasser le temps. Vous savez un truc fondamental. Si ça nous intéresse, peut-vous vous gêner. Le droit d'avorter. Le droit d'avorter a été inscrit dans la loi française après une révolte d'un certain nombre de femmes qui ont signé une charte que Simone Veil avait été la première à signer. Bon, il se trouve que si on analyse suivant le mode traditionnel, il y a un droit qui était d'une certaine manière, qui écartait la possibilité pour les femmes d'avorter. Si elles le faisaient, elles étaient criminelles. Alors, un jour, on a changé, puis on a mis ça. Pas du tout, pas du tout. Il y avait des logiques rationnelles différentes. Et lorsqu'une partie de la population importante porte une logique qui est contraire à la logique inscrite dans la loi, alors il faut trouver les moyens d'articuler ces logiques. Voilà. Et le débat sur l'avortement actuellement, on n'en sortira jamais tant qu'il y a les catholiques d'un côté qui sont contre et les femmes libérées, excusez-moi, je fais des schémas, qui sont pour. Il faut articuler les logiques. Voilà. Comme disait Carbonnier, le droit n'est pas là pour faire de l'éthique. L'éthique, elle existe elle-même. Hein, il y a la morale, il y a la religion, il y a le droit. Le droit choisit parce qu'il ne peut pas y avoir plusieurs lois. Mais les logiques d'articulation sont fondamentales. Ensuite, la négociation, le compromis, l'arbitrage, les mots fondamentaux, l'élaboration de programmes d'action et de politiques publiques concertées, alors que dans la loi, vous vous rappelez le schéma tout à l'heure du One Best Way, les sociologues n'ont rien à dire, les sociologues juristes n'ont rien à dire, la population n'a rien à dire. Eh bien, grâce aux politiques publiques, on peut faire de la concertation. Et d'ailleurs, au niveau territorial, c'est maintenant commun, c'est-à-dire que les responsables de régions, de départements en France, je vous parle pour l'organisation administrative française, s'entourent de gens qui travaillent dans des associations, effectivement. C'est déjà une sorte de gouvernance. Ce sont des politiques publiques qui vont en sortir et qui seront de la concertation. Et puis, réhabilitation de la société civile pour de nouvelles formes de gouvernement. Donc, la participation apparaît contre la représentation. C'était le troisième point. Raison ludique, raison segmentée, raison négociée. la gouvernance peut être considérée comme un instrument adéquat pour participer à la prise de décision grâce à un nouveau processus de décision qui s'appelle la prise de décision complexe. C'est Herbert Simon, qui est prix Nobel d'économie, qui en 60 a promu les nouvelles sciences de la décision, qui se réfère à une épistémologie constructiviste. Laissons tomber ce qui est en bas, on y reviendra, union systémique, ouverture systémique, récursivité, on y reviendra. Vous vous rappelez ce qu'était l'épistémologie positiviste ? Constructiviste, c'est tout le contraire. Constructiviste, c'est la fameuse phrase du poète espagnol, le chemin se construit en marchant. L'andar, c'est le camino. Hein, le chemin se construit en marchant. Et c'est ça qui vous attend. Hein. Et votre vie, elle ne sera pas facile. Parce que le chemin, il n'est pas tout prêt. C'est vous qui allez le faire. Et si vous êtes trop élevé dans l'esprit protectionniste, vous êtes fichu. Mais les meilleurs d'entre vous, ils y vont très très loin. Donc, rien n'est donné, tout est construit. L'intelligence ordonne le monde en s'organisant elle-même. La connaissance, c'est une actualisation des opportunités ou création de nouvelles opportunités. Elle est la recherche du comportement le plus adéquat. Et le raisonnement a pour but la recherche de la solution la plus satisfaisante. On parle d'action intelligente qui permet de trouver des stratégies d'adéquation entre une situation et la réalisation du projet. Alors voilà. Donc, nous avons des sous-systèmes tout complètement différents de la décision Westphalienne. Le système de décision est un ensemble de sous-systèmes. Il y en a un où on construit des problèmes, donc les citoyens sont concernés. Il y a un autre... Ça, attention, c'est de la modélisation, c'est pas ce qui se fait. Dans beaucoup de lieux, on commence à essayer, en pratique, et parfois sans avoir appris qu'il existe ce modèle-là, de mettre en œuvre quelque chose qui y ressemble. Ici, un sous-système de conception des plans d'action avec des experts, des observatoires, des chercheurs, et puis un sous-système de sélection des décisions. C'est le pouvoir législatif. Tout ça pour un but qui est la satisfaction de nos règlements sociaux. Donc en bas, vous avez les gens qui participent. Au milieu, vous avez des gens qui se concertent. En haut, vous avez quelqu'un qui continue à réfléchir pour savoir quelle est la meilleure solution, parce qu'il ne faut pas se faire d'illusions. Les gouvernants détiennent des éléments que tous les autres ne détiennent pas. Donc en prenant la décision, il fait la part entre tout ce qui était élaboré et ce qui est faisable pour satisfaire les nouvelles demandes sociales. Vous avez des récursivités entre les niveaux. Si les niveaux étaient simplement bottom-up ou top-down, il n'y aurait pas de complexité, il n'y aurait pas non plus une bonne prise de décision. Il y a des demandes de reconstruction des problèmes, par exemple, les experts peuvent bien dire aux citoyens « ça ne marche pas, on ne peut pas faire de plan ». Satisfaisant pour ça. Ou bien, on fournit des plans au pouvoir législatif et le législateur dit non. On ne peut pas faire de loi à partir de ça. Donc, il y a des récursivités, on retravaille. Le problème sera savoir combien de fois on peut faire ça, combien de temps. C'est une modélisation que vous avez vu ça. Donc, vous avez de la gouvernance qui se trouve au moins dans le premier échelon et en partie dans le deuxième échelon. Et vous avez le gouvernement qui continue à travailler à son échelon à lui et il est le seul. Mais à ce moment-là, les ONG, toutes les organisations, toutes les réunions que vous avez vues, à Porto Alegre, à Cita, à Genève, etc., avec les alternatives participatives, eh bien oui, elles peuvent intervenir institutionnellement, puisqu'elles peuvent intervenir dans le sous-système de construction des problèmes des citoyens concernés. Et vous vous rendez compte qu'au lieu d'un One Best Way qui était top-down, on a affaire à un jeu. Un jeu qui est du bottom-up et qui est à la fois qui répond aux besoins de rationalité ludique plurielle, segmentée et négociée que nous avons vu tout à l'heure. Alors, en guise de conclusion, j'ai que 5 minutes. Je crois que j'ai peur de le dépasser, mais vous m'arrêterez si vous voulez pas. Qu'est-ce que j'avais marqué ? Quelques pistes pour repenser le droit. D'abord, le passage de la modernité à la postmodernité. Bon, Vous pourrez regarder sur Internet si ça vous intéresse. Mais quels étaient les critères de la modernité? À partir de ce que je vous ai raconté, tout ce qui s'est fabriqué à partir de Gratien jusqu'à Grotius, Hensius, Pufendorf et les auteurs qui ont développé ça, et c'était notamment en France, avec Poutier et tout ce genre. Et la fabrication du code civil qui était basée là-dessus. Fermeture du droit. Et maintenant, la postmodernité. Après, le postmodernisme, là, on ne l'utilisait que comme après la modernité. On est là-dedans. On ne peut pas le définir, on est en train de le vivre. Hein? Ce sont vos enfants à vous qui pourront définir. Alors, fermeture, ouverture. On avait la certitude, rappelez-vous, la clarté, la sécurité. Maintenant, c'est l'incertitude. On est dans l'incertitude permanente. On est dans l'instabilité permanente. On est dans le flou. Un exemple, la guerre. Elle avait ses règles. Les nazis se sont moqués des règles de l'armée. Mais il y avait des officiers qui assuraient le respect des lois militaires. Maintenant, on parle du terrorisme. Vous avez ce passage de la certitude et de la clarté à l'incertitude et à l'instabilité. Fixe, établi, donné, émerge. Tout est émergent. Actif, réactif. Actuellement, tout est interactif. Et il y a des rétroactions partout. Moi, je vous l'avais montré juste avant. Séquentiel linéaire, ça donne maintenant des réseaux. Host, Michel Van de Kerckhove. Voilà les réseaux. Et circularité. Stabilité, actuellement, c'est la question de l'équilibre et du déséquilibre. Où atteint-on un équilibre et où est-on en déséquilibre? Et on est tout le temps en déséquilibre. Formel, informel. Hein? Alors, Carboni a été l'un des premiers à soutenir la sociologie du droit. Qu'est-ce qu'on l'a accusé de donner place à l'informel? Actuellement, on est dans l'informel. Simplicité, vous vous rappelez? Pluralité, complexité, récursivité. On avait des articulations, on a des enchevêtrements. Des enchevêtrements, Michel Van de Kerckhove, François Host en ont parlé beaucoup aussi de ces enchevêtrements. Continuité, des discontinuités. Règles et lois, on a des régulations et ces régulations ne sont pas unifiées. Structure et forme, tout est en question. On ne fait que des questions actuellement. On n'a pas de réponse. Lecture et construction du sens, on y va au pilotage. Et d'ailleurs, le mot gouvernance. Le mot gouvernance, c'est celui qui est au gouvernail et qui pilote son embarcation. Donc, les mots ne sont pas innocents. Repenser aussi un nouveau contrat social. Bon, le citoyen, il veut une dimension nouvelle. Je dois vous dire que la majorité des citoyens ne savent pas trop. Mais ils veulent. Pour eux, c'est du droit, c'est de la liberté, c'est pas de contrainte. Donc, ils veulent du nouveau. Ça aide parce qu'ils entrent plus facilement dans des associations qui deviennent des organisations non gouvernementales. Et ces organisations non gouvernementales, elles sont encadrées quand même par des gens intelligents. Donc, il y a une formation du citoyen qui se fait. Ce qui est dommage, c'est que cette formation ne soit pas encore prise en compte dès l'école primaire. Alors, je veux bien qu'on apprenne à chanter la Marseillaise à l'école primaire, c'est bien, mais on pourrait peut-être apprendre aussi ce que c'est que la gouvernance. Et puis repenser un nouveau contrat social en utilisant sciemment l'outil qu'est la gouvernance. On aura donc affaire à un nouveau contrat social. Et vous savez très bien que notre droit traditionnel a été pensé en fonction d'un contrat social dont la meilleure présentation a été faite, l'une des meilleures présentations a été faite par Jean-Jacques Rousseau. Et bien actuellement, on est face à un nouveau contrat social qui allierait la représentation et la participation. Donc c'est le problème de la coexistence du gouvernement et je vais te parler d'une repolitisation de la vie politique. À la base, vous avez les citoyens qui votent pour diverses instances, c'est de la représentation. Il faut savoir que les normes vont tomber d'en haut quand même. De ce côté-là, c'est du top-down. Est-ce qu'on peut éviter que le droit soit édicté par en haut? Par contre, il y a des mouvements de la société civile, et surtout de la société civile globale, avec des citoyens qui s'engagent. Ça, c'est le mot fondamental. Pour de la participation. Et là, on va avoir du bottom-up. Ça vient de la base, ça retourne à la base, récursivité, ça retourne ensuite aux instances. Et qu'est-ce qui se passe? Il se trouve qu'au niveau des instances régionales, il y a un peu de gouvernance. Au niveau des instances nationales, il n'y en a pratiquement pas. Au niveau global, oui, la gouvernance globale, c'est courant. Et au niveau subnational, de plus en plus. Vous avez du gouvernement avec de la gouvernance. Vous avez la représentation et la participation qui sont en acte. Je pense que pour repenser le droit, c'est fondamental parce que c'est le schéma, il me semble que c'est le schéma du futur. Reste à bien établir les règles des uns et des autres, ça oblige à refaire des constitutions. Et par exemple, vous savez que le Brésil a été, je vous parle beaucoup du Brésil, mais j'y vais pas mal, le Brésil a été sous dictature militaire jusque dans les années 80 et des poussières. La constitution date de 88. Les gens qui ont fait la Constitution sont en grande partie des gens qui avaient été exilés, qui sont revenus avec du modèle importé de l'extérieur. Mais ils avaient des idées extrêmement nouvelles. Et alors ils ont fait une des constitutions les plus avancées du monde. Il y a à l'intérieur de la Constitution un chapitre consacré à la participation citoyenne. Ce sont des modèles importés de l'extérieur. Alors, lorsque ça peut leur être utile, ils l'utilisent, par exemple, au Parti des travailleurs, à Porto Alegre, dans l'état de Minas Gerais, à Belo Horizonte, ils ont créé des budgets participatifs. Je vous en ai dit un mot tout à l'heure. Allez sur Internet, cherchez budget participatif, vous verrez des tas de choses. Avec Internet, on trouve tout à condition de faire le copier-coller, c'est magnifique. Il se trouve qu'il y a 2 ans, Lula a eu un grand problème avec de la corruption autour de lui. Et ça a remué le pays. Et j'étais invité par l'Ordre des avocats du Brésil, ils ont une conférence biannuelle, j'étais invité pour faire une conférence. Les avocats du Brésil, quand ils viennent, c'est 5000 avocats qui se déplacent. Et je leur ai posé la question. Allez, ils ont un truc très intelligent. La conférence, elle doit déboucher sur quelque chose de pratique. Une suggestion que fait le conférencier et qui ensuite est reprise pour présenter un rapport au président de la République. J'étais très fier parce qu'ils ont repris l'une des argumentations que je faisais. Je leur ai dit, vous avez dans votre constitution, à tel article, tel chapitre, tel article, la possibilité d'intervenir de la base lorsque vous voyez quelque chose qui ne marche pas en vous. Et vous, les avocats, des juristes par excellence, vous n'avez pas pensé à le faire. Alors que vous pouviez intervenir à cette époque-là. Et ils l'ont fait, ils ont envoyé la recommandation. Effectivement, il ne suffit pas d'inscrire dans une constitution quelque chose si les mœurs ne sont pas favorables, mais déjà d'inscrire, c'est énorme. Et je crois que nos constitutions devront être refaites. Ce n'est plus une question de penser en termes de ce qu'on va passer en France de la 5e à la 6e République, une 6e République faite par des constitutionnalistes de M. Sarkozy. Je ne crois pas qu'ils introduiront vraiment les gouvernances comme ça. Il faudrait d'abord qu'ils aient suivi mes cours. Alors, force de la constitution démocratique. Pour encadrer la production du droit, pour contrôler la mise en œuvre des normes, sauvons-nous en sauvant l'État démocratique, joignons nos forces à celles des citoyens. Comment repenser le droit en fonction d'un droit global? Mode de production et questionnement, mode de production d'un droit global, on l'a vu. Il y a des codes de conduite globales, du consensus de Washington dont j'ai plus le temps de vous parler, l'harmonisation des normes dans les blocs régionaux, du droit négocié qui inclut des solutions alternatives au conflit, l'unification par voie jurisprudentielle. M. Melkins de Villemars m'avait préfacé mon petit livre sur l'Europe, et il dit ça. Il dit pourquoi, pour l'Europe, penser toujours en termes de république fédérative. Non. Quand il y a un problème, on le soumet au tribunal, le tribunal donne une règle commune, mais s'il n'y a pas de problème, ce n'est pas la peine de forcer les gens au-delà de ce qu'ils sont capables de sentir. Parce qu'il faut le sentir. Qui se sent européen en France? Je parle pas des autres pays, mais qui se sent européen en France? Je me sentais une Europe. Vous savez pas, il y a eu une grande conférence sur l'Europe à Toulouse, à l'université de Toulouse, il y a 2 ans. Après, il y a eu un grand dîner à la mairie de Toulouse. J'étais invité au dîner, on nous a mis un orchestre, et au début du repas, l'orchestre a joué l'hymne européen. J'étais le seul à me lever. Les autres se sont levés ensuite quand ils m'ont vu, ils ont eu honte. J'étais très content. Mais j'étais le seul à me lever. C'est pas rentré dans les esprits, donc il faut y penser à tout ça. Alors, les questions importantes, mais ce sont des questions et vous aurez les résoudre. De toute façon, je n'ai pas les réponses. Alors, je vous les livre telles qu'elles me viennent et vous en aurez d'autres. New World Order ou One World Community? David Held, dont je vous ai parlé tout à l'heure, HELD. Il y a des bouquins fondamentaux et à partir de la bibliographie, là, vous pourrez trouver la bibliographie aussi dans mon bouquin sur contre mondialisation, il s'appelle post-mondialisation. La place des ententes et blocs régionaux là-dedans, dans le New World Order, One World Community. Autre question, comment le local peut-il assurer sa place là-dedans? Et autre question, le degré de contamination entre eux. Pour terminer, cette fois-ci, une phrase que vous trouverez dans le rapport Our Global Neighborhood, où vous trouverez les fondements conceptuels de la gouvernance. En 1995, c'est une commission qui a été nommée par l'ONU pour envisager une réforme de l'ONU qui n'a surtout pas eu lieu. Et le rapport, il est fondamental, et vous le trouvez sur Internet, dans toutes les langues. Et il y a cette phrase, « La production du droit a évolué ». Vous voyez qu'aujourd'hui, je viens pour rien, tout était dit. La production du droit a évolué, mais la progression au cœur du système présent demeure un héritage du passé. Elle convenait à une communauté mondiale comprenant relativement peu d'États et où la technologie, la population et l'environnement ne constituaient pas des sujets de préoccupation. Il s'agissait d'une approche de loisir comme un passe-temps club de la production du droit international qui tout simplement ne peut plus servir à la société globale contemporaine. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Et je vous ai inscrit là quelques adresses qui peuvent vous servir, et la mienne tout à fait en bas si vous avez envie de me contacter. Car ne confondons pas les choses, c'est moi.